Une petite surprise. Est-ce que vous avez lu... Je vais vous poser une question, mais c'est pas, je ne veux pas que ça soit la question qui fâche entre nous. Hein. Est-ce que vous avez lu votre Bible cette semaine? Bien. Pourquoi est-ce que vous avez réussi à lire votre Bible cette semaine? Oui, on l'a décidé, mais même si tu l'avais décidé, tu aurais peut-être ne pas pu pouvoir la lire. Je ne sais pas si c'est... Parce que... Je voudrais une autre raison. Parce que... Oui. Mais je vais vous donner une piste. Est-ce que vous pouvez lire quelque chose là? Pourquoi? Alors, si on a pu lire la parole de Dieu cette semaine, c'est parce que d'autres l'ont écrit. Ouais. Voilà. Et ce matin, je voudrais vous parler du projet d'écrire. Écrire, en fait, c'est un projet qui ne date pas d'hier. Hein. Ça a traversé l'humanité et la Bible mentionne l'importance de l'écriture maintes fois. Bon, on peut citer 2-3 versets. Hein, par exemple, dans Jérémie 30, verset 2. Voici ce que je dis, moi le Seigneur, Dieu d'Israël, mets par écrit tout ce que je t'ai dit, afin que les gens de Josué puissent le lire dans quelques siècles. Enfin, ça c'est pas écrit, mais c'était le but en fait. Deutéronome 31-24, Moïse finit d'écrire dans un livre toutes les paroles de la loi de Dieu. Et ça a dû être un sacré boulot, hein, parce que quand on lit toutes les lois que Dieu a données, Moïse a été patient. Alors dans Josué aussi, Josué 24-26, Josué écrit ses paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il a obéi, il a écrit. Et un dernier pour la route, Habacuc chapitre 2 verset 2. Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Et il y en a tout plein, vous pourrez fouiller. D'ailleurs si vous regardez le Nouveau Testament, les épîtres c'est quoi? Des lettres. C'est du courrier. Et quand on lit tout ce qui a été écrit par ces hommes et ces femmes de Dieu, ces hommes de Dieu, en fait, on se rend compte que c'est vraiment de belles choses. Et on peut écrire, exprimer de belles choses. Je me souviens quand, il y a très, très, très longtemps, c'était entre le déluge et maintenant, n'est-ce pas? J'avais une quinzaine d'années et il y avait un chant que j'aimais particulièrement. Et il disait ceci, « Si d'encre la mer était pleine, si le ciel était un parchemin, si chaque herbe était une plume ancienne, chaque homme était un écrivain, la mer serait bientôt tarie pour écrire son amour. » Oui. Je ne me rappelle pas la suite, j'ai creusé, mais je n'ai pas retrouvé. Mais rien que ça, quel projet merveilleux. Soyons justement ces écrivains qui vont... écrire, construire en écrivant le royaume de Dieu et parler de son amour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai entendue à Lue, alors ceux qui étaient là, vous la connaissez. C'est un auteur inconnu et elle a été adaptée par Jérémy Bricout de Lyon. En fait, c'est pas moi qui vais vous la raconter. J'ai demandé à un quatuor de jolies voix de la nouvelle génération de le faire pour moi. Donc je vais les appeler. Vous pouvez venir?
Ça va être l'histoire de la feuille, de la gomme et du crayon. Donc ici, il y a la feuille, la gomme et le crayon. Le crayon avait pour rôle d'écrire l'histoire. La gomme veillait à ce que l'histoire soit écrite selon la vérité. Et la feuille était le support sur lequel serait partagée, transmise et lue par beaucoup l'histoire. Le crayon, plein de zèle, écrivait. Tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'il entendait, et il retranscrivait tout ce qui lui semblait bon. Or, le crayon n'appréciait pas d'être constamment suivi par la gomme, et découragé, il lui reprocha.
Gomme, cesse de me suivre et d'effacer ce que j'écris à ta guise.
Crayon,
Je travaille pour le compte de l'histoire. Nous avons le même maître et nous avons tous les deux des instructions bien précises. Chacun selon le don que nous avons reçu. Ne tu crois pas ?
Gomme, moi j'écris l'histoire. La feuille ne te l'a-t-elle pas dit ?
Crayon, moi j'efface ces erreurs, car l'histoire de la vérité ne doit faire l'objet d'aucune faute.
La feuille, voyant Gomme et Crayon se disputer, prit la parole. Gomme, Crayon, tout au long de l'histoire, j'ai fait preuve d'une grande patience envers vous deux. Je me suis laissé écrire, gommer, trouer, réécrire, froisser, jeter et même brûler. J'ai vu des crayons avec des tristes mines et des gommes si sales que le rendu de l'histoire était pire après qu'avant d'avoir été effacé. Souvenez-vous, nous travaillons tous pour le compte de l'histoire. Crayon, l'histoire apprécie grandement ton zèle, sans lequel la feuille resterait blanche. Gomme, l'histoire apprécie beaucoup ta sagesse, sans laquelle l'histoire aurait bien moins de sens. Comprenez-vous le sens de nos existences ? Quelle histoire sans crayon, ou sans feuille, ou sans gomme ?
Ô feuille, je remarque à quel point je suis orgueilleux.
Gomme, crayon, être au service de l'histoire demande une grande humilité. C'est pour le service seul que vous avez reçu vos dons. Regardez-vous, vous diminuez au fur et à mesure de l'histoire. Plus tu écris, plus tu rapetisses. Pareil pour toi, Gomme. Sans le savoir, vous vous sacrifiez et vous avez un but commun. Tant qu'à travailler ensemble, faites-le pour la gloire de l'histoire.
Gomme et Crayon se regardèrent et comprirent l'importance d'une bonne collaboration.
Voilà. On les remercie. Vraiment, vous avez été super. Merci beaucoup. On refera ça dans 15 jours.
Allez-y, merci.
J'ai vraiment aimé cette histoire. Bon, j'aime beaucoup les histoires. Hein. Mais au-delà de ce que nous pouvons entendre, je trouve qu'elle parle aussi à nos cœurs. Il y a un message pour nos cœurs. Alors, chacun de nous, on est tour à tour gomme, crayon ou feuille, selon les circonstances et selon la mission que Dieu nous confie. Dieu est le maître de l'histoire. Personnellement, moi, si j'avais le choix, je choisirais d'être une feuille. Moins de risques. Juste celui d'être égratigné par un crayon trop pointu ou malmené par une gomme trop zélée. Mais voilà, on ne choisit pas les missions que Dieu nous donne. L'important, c'est de discerner le don que Dieu a placé sur chacun de nous et à quel moment il veut nous utiliser en tant que tel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gomme. Vous avez vu, j'en ai une belle là. Hein, avec celle-là, vous pouvez y aller, vous avez du travail et du matériel. Hein. Oui, vous avez vu ce qui est écrit ? Est-ce que vous savez que l'ancêtre de la gomme, c'était une boulette de mie de pain ? Et puis... puis plusieurs matières ont tenté leur chance. Mais l'heureux élu a été le caoutchouc. Vers 1770... Après, bien sûr, ça a été amélioré. Hein. Les améliorations techniques ont fait de la gomme, on l'a présentée sous multiples formes. Vous pouvez dégainer une gomme cutter. Hein. Vous avez toutes sortes de gommes, là, moi j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Et quelle est la mission de la gomme ? En fait, la gomme a pour mission de faire disparaître les traces de graphite ratées. Ratées. Pas n'importe quoi, pas toutes les traces, laissées par la mine du crayon. Elle peut être plus ou moins agressive selon la matière dans laquelle elle est faite et selon la rage de son utilisateur. Hein. Bon, à première vue, la connotation n'est pas très positive. Une gomme, bon, c'est fait pour effacer, ça ne construit pas, apparemment. Mais je relisais il y a quelques semaines le livre de Job. Et les trois amis, entre guillemets, m'ont fait penser à des gommes non authentifiées par le Créateur. D'ailleurs, Job avait beaucoup de mal à les supporter. Pourquoi ? Parce que leurs interventions, humainement très vraisemblables, quand on les sort du contexte, ce qu'ils disent, c'est chouette. Et à première vue, c'est bon, mais elles ne sont pas d'inspiration divine. Ils disent des choses vraies, ou pas d'ailleurs, hein, mais complètement hors sujet. Ce sont des gommes qui se chargent d'une mission qui ne leur a pas été confiée. Alors je vous invite à lire avec moi dans Job 34:7, verset 9. Alors je crois que c'est Monsieur Eliou qui parle. En réponse du plaidoyer de Job, Job a essayé de leur expliquer sa situation, son cœur. Hein, c'était au chapitre 31. Et donc là, Eliou lui répond. Enfin, ce Job, c'est qui ? Oh, il insiste Dieu aussi facilement qu'il boit de l'eau. Il va avec ceux qui font du mal, il se met du côté des gens mauvais. En effet, il a dit, les gens n'ont aucun avantage à essayer de plaire à Dieu. Est-ce que vous croyez que ça ressemble à Job, ça ? Non. Et moi, ces coups de gomme, je les appellerais de la médisance, de la critique. C'était quand même des drôles d'amis, hein. Et leur message était vraiment, vraiment dépourvu d'amour. On a un autre exemple dans la Bible qu'on connaît tous et dont on parle très souvent, c'est de Joseph. Hein. Ses frères aussi, bon, ils ont endossé la gomme autoproclamée. Ils se sont dit, ah ah. Il dit ça, mais nous on va effacer tout ce qu'il dit. Mais Dieu a changé le mal en bien. Il a inversé la vapeur. Donc la conclusion, elle est dans Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse, dit Joseph. Ne vous faites pas de reproches, parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. D'ailleurs, pour Job aussi, il y a eu un retournement de situation. Hein. Dieu a inversé aussi la vapeur. Dans le chapitre 42, les versets 7 et 8, le Seigneur a adressé toutes ses paroles à Job. Ensuite, il a dit à Eliphaz de Théman, « Je brûle de colère contre toi et contre tes deux amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. Et maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. » Ça, c'est dur, hein. Vous offrirez ces animaux en sacrifice complet pour vous-même. Pendant ce temps, je priera pour vous et j'accepterai sa prière. Ainsi, ne vous couvrirai pas de honte. Pourtant, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. Waouh, c'est une fameuse leçon, hein. Quand on est à mission gomme, faisons attention à bien faire ce que notre employeur nous demande, de façon à ne pas prendre le risque de prendre des gifles comme ça. Parce que là, bonjour l'humiliation. Hein. La gomme, on peut la retrouver sous diverses formes. Alors, on a vu des formes de gomme. Mais il y a aussi, je voudrais vous parler de l'effaceur. Alors bon, les enseignants, surtout les enseignants du primaire, connaissent bien l'effaceur. C'est un espèce de crayon avec une tête blanche et une tête bleue. Avec la tête blanche, vous effacez ce qui est écrit au stylo plume. Et avec la tête bleue, vous pouvez réécrire dessus les nouvelles choses. Je vais vous raconter une petite anecdote de quand j'étais encore maîtresse à l'école Timothée. On avait des toutes petites classes. Et il ne fallait pas beaucoup bouger pour envoyer tout par terre, tout ce qui était sur les tables. Nous étions en train de faire une dictée, puis tout le monde avait la langue coincée au coin des lèvres. Tout le monde était concentré. On entendait le bruit des plumes sur le cahier. C'était top. Tout à coup, badaboum. Alice, pas la nôtre, hein, une petite Alice que j'avais dans la classe, elle avait fait un geste trop brusque et la trousse d'Audrey qui était assise derrière avait valsé sous la table en voyant gomme, crayon, feutre, tout aux quatre coins de la classe. Évidemment, chacun s'est précipité pour ramasser et on a tout remis dans la trousse. Un instant plus tard, l'ambiance studieuse était revenue. On allait reprendre la dictée quand Audrey, une petite fille très sage et très discrète, a poussé un cri. « Maîtresse, elle a disparu !» J'ai dit « Quoi encore ? C'est pas possible aujourd'hui. » mais il m'a fallu plusieurs minutes pour savoir, comprendre ce qui avait disparu. La phrase qu'Audrey avait écrite avec application, elle n'était plus couchée sur sa page. Grande effervescence dans la classe. Mais la petite Alice n'a pas pu maîtriser un sourire satisfait. Elle avait réussi son coup. Armée de son effaceur, profitant du temps de ramassage des affaires d'Audrey, qu'elle avait envoyées volontairement sous la table d'ailleurs, elle avait effacé la phrase écrite par sa camarade. Vous me dites de vous dire que la dictée a été remise au calendrier grec. Hein. Et il a fallu un moment pour ramener la paix et pour décortiquer cette situation. Pourquoi et pour des demandes de pardon et tout ça et tout ça. Alors l'effaceur, qui est un outil tellement précieux quand il est utilisé avec sagesse, est devenu, dans ce cas hors sujet, une occasion de conflit. Alors, je vous pose la question. To be or not to be une gomme? That is the question. Pourtant, cette mission, qui semble parfois ingrate, a sa place dans la vie de l'Église. Dieu a besoin de rectifier certaines choses ratées. Vrai ou faux? Oui. Matthieu 18, 15 nous dit ceci. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Et je souligne cette petite partie, quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il y a des histoires dans la Bible où Dieu a utilisé la gomme. Et je voudrais juste qu'on fasse une petite escale auprès de David. On connaît tous cet épisode où David a fait une bêtise, une grosse bêtise. Il se baladait sur sa terrasse dimension XXL et il a aperçu sa voisine. Franchement, il n'aurait pas dû être là puisque ses troupes étaient à la guerre. Enfin bon, voilà. C'était le roi, il faisait ce qu'il voulait. Et donc, voilà, il s'est laissé tenter par la beauté de Bathsheba, vous savez. Et les conséquences de ce moment vont le plonger dans un engrenage infernal. Dieu est fâché. Et il décide d'utiliser Nathan pour ouvrir les yeux de David. Nathan allait être la gomme entre les mains de Dieu. Nathan, fort de sa mission divine, aurait pu tomber sur le dos de David, lui dire des paroles dures, lui faire la morale. Mais un homme sage, il a choisi la pédagogie. Il raconte une histoire à David. Et David va voir la situation de l'extérieur et ça va le faire réagir. Alors 2 Samuel, chapitre 12, les 7 premiers versets. Alors le Seigneur envoie le prophète Nathan à David. Nathan entre chez le roi et lui dit « Dans une ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de moutons et beaucoup de bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il lui donnait à manger et la brebis grandissait avec ses enfants. Elle mangeait la même nourriture que lui. Elle buvait le même lait. La brebis dormait à côté de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, toc, 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 un visiteur arrive chez l'homme riche. Il s'est peut-être pas prévu cette visite. Toujours, celui-ci ne veut pas prendre un mouton ni un bœuf de son troupeau pour préparer le repas. Alors, il prend la petite brebis du pauvre et la fait cuire pour son visiteur. David se met dans une violente colère contre ce riche et il dit à Nathan, aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et Nathan dit à David, l'homme qui a fait cela, c'est toi. Vous savez, David n'a pas eu besoin qu'on lui fasse un dessin. Il a compris tout de suite. Il s'est repenti. On le lit dans le psaume 51. Mais il a dû assumer les conséquences de son acte. La mission de gomme au sein de notre communauté, elle est importante. Mais elle demande un cœur rempli de l'esprit, une oreille attentive à la voix de Dieu, un amour profond et une discrétion protectrice. C'est pour ça que j'ai appuyé sur ce passage tout à l'heure. Quand tu es seul avec lui, c'est tellement important. Devenir gomme entre les mains du Seigneur ne veut pas dire devenir un juge. C'est juste être un supporter de la vérité. Bon, dans Éphésiens 4, 15, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Parfois, quand on a connaissance de situations plus ou moins douteuses, c'est plus facile de rester superficiel, hein, de faire un petit sourire comme ça, ou alors de critiquer aussi, par derrière, et de se dérober quand Dieu veut nous employer pour reprendre des personnes, plutôt que de tenir tête devant ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais la Bible nous dit, au Proverbe 24, 26, une réponse franche est une preuve d'amitié. Une réponse franche est une preuve d'amitié. Alors, est-ce qu'on peut agir en gomme sans détruire l'amitié? Si les relations sont profondes et qu'elles sont véritables, ben, elles nous permettent de dire la vérité dans l'amour. Fini les mensonges et les faux-semblants. Quand Dieu nous demande d'être son instrument, sa gomme, disons la vérité à nos proches. Mais disons-la avec amour. Disons-la avec discrétion. Disons-la. Soyons comme Nathan, sage. Et dans notre famille Josué, qui est le corps de Christ alsacien, n'est-ce pas? Je vous propose que nous prenions la décision de faire ce que nous dit Éphésiens 4, 25. Alors, ne mentez plus, chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Et comme nous faisons partie d'un même corps, ben, si je mens à mon doigt, je mens aussi à mon pied, c'est le même corps. Donc, soyons vrais, soyons vrais. Alors, j'ai lu un truc quelque part que j'ai un peu adapté. Hein. Les sujets délicats sont difficiles à aborder. Pourtant, tout le monde est imparfait, tout le monde commet des erreurs, tout le monde se met dans des difficultés. Les amis doivent pouvoir compter les uns sur les autres, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour reprendre et conseiller. Vous savez, il faut du courage pour s'exprimer quand un proche a besoin d'entendre des mots durs. Et la beauté d'une relation, en fait, c'est un mélange de plaisir, mais aussi de responsabilité. Si je suis ton ami, je suis responsable de qui tu es. Et si tu es mon ami, tu es responsable de qui je suis. Ça passe aussi par des moments peut-être un peu moins faciles. Éviter de parler franchement d'une situation blessante ou contraire à la volonté de Dieu, c'est déshonorer la relation et les amis. Il faut les aimer assez pour accepter de risquer leur rejet ou leur colère en leur disant ce qui ne va pas. Pourtant, la vérité, ça fait grandir, ça guérit. Mais si on n'est pas capable d'avoir ce tact et cet amour qui vient de Dieu, alors il vaut mieux se taire. Hein? Parce que la franchise doit être motivée par l'amour et la pureté. J'ai aimé ce texte parce que je trouve que c'est tellement vrai. Ça résume bien la mission de gomme. Donc bon, les fabricants d'outils scolaires, ils sont sortis de la zone de la gamme des gommes classiques, hein, celles que nous on a connues quand on était petits, vous savez, celle-là. Vous vous rappelez cette gomme rose et bleue? Donc après, il y a eu des gommes blanches, il y a eu aussi des gommes. Alors, quand j'étais encore instit, je râlais après les parents, car je disais, vous savez, il y a des gommes fluo, roses, vertes, jaunes, c'est sympa, mais ça ne gomme rien. Vous avez des gommes qui sentent bon, mais est-ce que l'objectif de la gomme est de sentir bon? Vous avez aussi des gommes en effigie des petits personnages des dessins animés ou des histoires. Mais bon, voilà. Mon expérience m'a montré que leur efficacité était nulle. Ce sont des gommes d'apparat. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des gommes d'apparat. Soyons des vraies gommes. Comme ces gommes blanches qui sont vraiment, vraiment efficaces. Vous savez, je bénis Dieu, j'ai beaucoup d'années derrière moi, beaucoup plus que devant moi, et je bénis Dieu pour les personnes gommes, hein, qu'il a mises à mes côtés pour m'accompagner, de leur sagesse et de leur amour. Un regard bienveillant sur ma vie, même s'il passe par un tirage d'oreille, ben c'est sécurisant et stimulant. Mais cela demande une dose de consécration importante, parce qu'on peut vite basculer dans le négatif destructeur. Je me souviens d'un élève qui qui était bonne en orthographe, bon en orthographe quand nous avions le collège. Et il y avait des enfants, enfin, notamment deux jumeaux qui avaient vraiment des problèmes d'orthographe, c'était terrible. Et alors ce bon en orthographe venait me voir et me disait, je peux savoir combien il a fait de fautes, c'est pour prier. Ben, je lui dis, écoute, tu peux prier sans savoir combien il a fait de fautes. Hein? Donc voilà, parfois on a un regard martien en tant que gomme. Hein? Alors je ne sais pas si vous avez fait cela quand vous étiez petit, mais vous savez quand on avait ces gommes bleues là, la partie bleue, il y a des particules de pierre ponce dedans. C'est ça que ça la rend plus abrasive. Et je me souviens que quand j'arrivais pas à effacer, j'effaçais, et qu'est-ce que ça faisait? Un trou dans le papier, exactement. Ouais. Et quand je pense à cette expérience, ça me rappelle Jérémie 18:18, dans la version seconde qui dit « Venez, tuons-le avec la langue. » On peut tuer en étant une gomme trop abrasive. On peut tuer en sortant de la fonction que Dieu nous donne. Alors si Dieu nous missionne en tant que gomme, veillons à n'intervenir que tenu par sa main et guidé par le Saint-Esprit. La mission de gomme demande de la prière. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Alors, au cours de mes nombreux sauts de puce en Afrique, j'ai découvert quelque chose qui m'a amusé. Vous savez, là-bas, les déplacements se font en taxi. Vous allez dire, waouh, le luxe! Ah non, non. Surtout, ne vous imaginez pas une belle voiture, bien propre, avec un petit sapin qui sent bon, et des sièges bien et tout. Non, 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 non. Ouais. Les taxis africains sont en général des mamies voitures évadées d'un EHPAD. Où on s'entasse à deux fois plus que le nombre de places autorisées. Alors quand vous avez réussi à caser votre postérieur sur un coin de banquette à peu près convenable, que vous êtes sûr que vos pieds ou votre parapluie ne vont pas passer à travers le plancher, ben il reste encore de l'occupation pour vos yeux. Alors il y a toutes sortes de maximes collées sur des feuilles de papier, écrites sur des feuilles de papier collées sur l'habitacle, ou même écrites carrément sur l'habitacle. Bon, je vous passe parce que c'est pas très glorieux forcément, mais parmi ces messages, il y en a un qui m'a fait réfléchir, et ça date de il y a plus de 30 ans quand j'ai lu ça, peut-être même plus, et j'y pense encore et je travaille encore ce sujet, j'y réfléchis encore. Il disait, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. J'ai dit, ça, c'est vrai et c'est pas vrai. D'ailleurs, ce serait un bon sujet de dissertation, chiche. Allez, vous avez 3 heures. Le crayon de Dieu a écrit notre destinée. Et la parole nous dit qu'il ne se repent pas de son appel et de ses dons. Donc de ce côté-là, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Romains 11:29, en effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné, il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Mais attention, il y a aussi le danger de l'autogomme. Ça, c'est plus l'affaire de Dieu, c'est la nôtre. Ne prenons pas le risque d'effacer ce que Dieu a écrit pour nous. Alors, la semaine dernière, bon, mon message était déjà prêt, et Luc a parlé des rêves. Et donc je pense que Dieu veut vraiment appuyer là-dessus, parce que moi je l'avais aussi noté. Donc, tant pis si Luc l'a déjà dit, je le répète. Dieu avait inscrit dans le cœur de Joseph des rêves qui annonçaient sa destinée, la destinée que Dieu avait choisie pour lui. Est-ce que vous avez des rêves? Moi, je crois que Dieu nous donne des rêves. Bon, j'ai beaucoup de mal personnellement à ne pas rêver les rêves des autres. Mais je pense que Dieu veut nous aider à rêver les rêves que lui a mis pour nous dans nos cœurs. Nous ne met pas sur terre sans rêve, sans destinée. C'était le cas de Joseph. Bon, Dieu lui avait donné des rêves un peu spéciaux, des aspirations. Bon, franchement, il les a partagés avec une maturité, la maturité d'un ado. Hein. C'était peut-être pas très malin de narguer ses frères avec ces rêves-là. Eux qui trimaient, et lui il était un peu le chouchou de papa, c'était pas très adroit. Et ça les a agacés, mais tellement agacés qu'ils sont devenus jaloux et ils ont essayé de le tuer en espérant aussi qu'ils allaient tuer ses rêves. Bon, comme on le voit dans la suite de l'histoire, hein, Joseph n'a pas sombré dans la dépression, dans le désespoir, pourtant il en a bavé. Hein. Il a toujours fait confiance à Dieu et ses rêves se sont accomplis. Il est devenu la personne la plus influente d'Égypte et ses frères se sont prosternés devant lui comme il l'avait vu dans ses rêves. Waouh ! Si on avait dit aux grands frères que ça se passerait comme ça, ils auraient juré, mais alors ils auraient misé n'importe quoi pour dire non, on ne le fera jamais. Et pourtant, Dieu l'a permis. Nous pouvons malheureusement devenir les gommeurs de nos propres rêves. Écoutez ces quelques petites phrases et dites-moi si elles vous rappellent quelque chose. De toute façon, moi, Dieu m'a oublié. Je ne compte pas pour lui. Tu me connais. Tu sais ce que j'ai vécu. J'ai gâché ma vie, j'ai fait n'importe quoi. Donc, pas de rêve de Dieu pour moi. T'as vu mon âge ? Mais c'est trop tard pour moi pour avoir des rêves. Allez donc, après tout ce que j'ai vécu, pour moi, les rêves, c'est fini, hein ? Ne m'en parle pas. Est-ce que ce ne sont pas des phrases qu'on a prononcées à un moment ou à un autre, ou qu'on a pensées si on ne les a pas prononcées ? Peut-être pas sous cette forme-là, mais ça veut dire la même chose. Et en disant cela, ben nous déracinons les semences de rêves que Dieu a mises dans nos cœurs. J'ai bien aimé le dernier chant que nous avons chanté, Alana, qui dit « Viens à moi, j'ai des projets pour toi, c'est ça ?» Et il n'est pas trop tard. Et quand j'ai entendu ce chant, j'ai dit merci Seigneur parce que c'est vrai. C'est vrai. Tu as des projets pour nous. Bien sûr, nous qui sommes des mamies comme Huguette ou Marguerite, il ne va pas nous donner un projet qui va pour une gazelle de 20 ans. Hein? Mais Dieu a des projets qu'il va mettre en application avec sa sagesse, avec son amour. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Et quand ça tarde, on piaffe. Vous savez, j'avais 15-16 ans quand j'ai eu vraiment sur mon cœur je dirais pas cet appel, j'aime pas trop, mais voilà, cette impression, ce sentiment que j'irais en Afrique. Et puis le temps passait, le temps passait, le temps passait. Bon, il y a eu 2-3 échanges où j'étais invitée pour rejoindre une équipe missionnaire. Après, il y a eu la guerre, ça n'a pas pu se faire, où il y a eu ceci, où il y a eu cela. Et chaque fois, la porte se fermait. Et j'étais frustrée parce que j'avais vraiment ça à cœur. Et puis un jour, on était dans un rassemblement de jeunes à Toulouse, et il y a eu une parole qui m'est tombée dessus, mais alors flamme. Hein, dit, je t'ai appelé, je t'enverrai. Mais la préparation sera longue et douloureuse. J'ai dit, c'est bien, hein, c'est engageant. Hein. Et quand j'ai mis la première fois les pieds en Afrique, j'avais combien ? C'était en 94, donc j'avais, voilà. Hein. J'avais 44 ans et ça faisait tellement d'années que j'attendais ce moment. Alors si tes rêves tardent, écris-les. Écris-les et quand tu as trop de doutes, relis-les. Parce que Dieu, lui, il a déjà écrit là-haut. C'est écrit. Hein? Dieu tient toujours sa parole. On ne sait pas sous quelle forme. Des fois, ces petites phrases qui sont des phrases cutères, elles viennent elles sont lancinantes là dans nos cœurs. Moi, j'ai eu ça aussi. Je me disais, mais Seigneur, alors j'ai rien compris. Mais j'avais entendu ce que Dieu disait. Seulement, ce n'était pas le temps de Dieu. Alors, pour revenir à notre phrase, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Il y a un moment où le crayon de Dieu a une gomme. C'est lequel ? Ben, c'est la gomme de la miséricorde et du pardon. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Hein. C'est vraiment un cadeau merveilleux. Mais il faut aussi que ça soit un exemple pour nous. Il faut toujours que nous ayons à portée de main la gomme du pardon dans toutes les situations, dans notre quotidien. Alors, je sais pas, enfin, je sais pas quelle heure il est, mais bon, peu importe. Je vous propose de parler du crayon et de la feuille lors d'un prochain partage, dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, si les tracteurs nous laissent passer, nous serons en région parisienne. On verra. Si les tracteurs ne gomment pas notre projet. Mais en attendant, vraiment, je vous invite à réfléchir. Peut-être que ça vous semble un message un peu rigolo, un peu superficiel, mais c'est un Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Et vérifions avec lui que notre fonctionnement, quand nous sommes en mission gomme, est conforme à l'étalon divin. Dans cette mission, vous savez, le fossé entre l'amour et l'arrogance ou la critique, il est très vite franchi. Ça va vite. C'est un petit mot, une petite pensée. Soyons vigilants. Remettons tout ce que nous faisons et disons entre les mains de Dieu, afin de ne pas déborder du cadre qu'il nous a fixé. Seigneur, merci pour notre famille Josué. Nous voulons veiller les uns sur les autres et interagir avec ta sagesse et ton amour. Que ton esprit touche nos cœurs, Seigneur, et qu'il touche nos lèvres, pour qu'aucun d'entre nous ne soit blessé ou laissé dans l'erreur. Pardon, Seigneur, pour les fois où, consciemment ou non, nous avons été une gomme abrasive. Mais aide-nous aussi à accepter que tu nous envoies une gomme quand tu le juges nécessaire. Nous voulons faire preuve d'humilité, Seigneur. Nous voulons être prêts à nous remettre en question quand tu nous interpelles au travers d'un de nos proches. Seigneur, notre plus cher désir, c'est de te ressembler, d'être comme toi, chaque jour davantage. Merci Seigneur de nous accompagner dans ce travail personnel. Sois le maître en nous Seigneur, règne sur nos vies, Papa. Amen.